Réfléchi, j'ai six cerveaux en fait.
L'heure CV avec Pascal CV.
Boulevard 102.1.
On est de retour à l'émission Copilote avec Nick, une petite reprise hein, qu'on s'est offert ici à Boulevard 102.1. Merci d'avoir choisi leur CV. Ce matin, on fait de la philosophie politique. On fait de la philosophie politique. C'est quand même très rationnel ce qu'on s'en va faire, mais on va aller se poser des questions. Puis on le fait pour qui? Pour vous, électeurs. J'entends tellement souvent que vous comprenez plus ce qui se passe, que vous avez perdu un certain intérêt par les riffifis, par les prises de bec, le manque de, comment dire, pas de sérieux en politique, mais un peu. Hein, je vais me permettre ça. Puis, Jérémy Guillaume et moi, on a quelque chose en commun, c'est qu'on aime réfléchir sur comment on fait de la politique, pas juste comment la politique nous est présentée. Où est-ce qu'on peut aller? Qu'est-ce qu'on a perdu? Comment est-ce qu'on peut revamper certaines choses pour aller rejoindre ben, les électeurs? Parce que, veux pas, c'est vous qui votez à chaque élection. Et là, on s'en va en campagne préélectorale, autant au fédéral qu'au provincial. Il y a quelque chose d'important qui se passe. Puis on est pas mal dedans en ce moment. J'ai lâché une petite craque à Jérémy dans les dernières heures en disant « Hey, Jérémy, ça te tente-tu d'aller jaser de la façon dont les partis tentent de se descendre, hein, se mettre la tête sous l'eau pour essayer de se remonter au lieu de débattre et se présenter comme étant une entité puis de se présenter tout simplement avec ses idéaux politiques, avec son plan de match, puis regarder en avant, foncer, comme on voyait un petit peu plus auparavant. On mangeait dans notre propre assiette, puis finalement, on ne se souciait pas de celle des autres. On va aller le rejoindre, notre stratège, ancien stratège politique et directeur chez TAC. Salut, Jérémy Guillaume.
Salut, Pascal.
On est sorti un peu des sentiers battus, mais on se colle toujours sur l'actualité. T'sais, récemment, on a vu un genre de... comment dire, de prise de parole de Marc Tanguay qui parle de la crise du logement. Marc Tanguay, chef intérimaire, qui a essayé de tenter, de piéger François Legault, qui est le premier ministre. On a posé une question assez claire. On lui a demandé combien ça coûte, c'est quoi le prix moyen finalement d'un 4,5 à Montréal dans cette période politique où un des enjeux vraiment chaud et important, c'est la crise du logement. On va aller faire entendre comment ça s'est passé, puis on revient avec toi, Jérémy, dans 2-3 secondes.
Je vais en poser une facile là, au premier ministre. Ça se peut pas qu'il n'y ait pas réponse. Il l'a, c'est sûr, depuis plusieurs années. Quel est le coût moyen du loyer pour un appartement 4,5 à Montréal?
Écoutez, je sais que ça avait été une question qui avait été posée par la co-chef de Québec solidaire, puis là, bien, le Parti libéral dit « Hey! » On a scoré avec ça, ou la co-chef avait scoré, donc je vais essayer de scorer moi-même. Je vais sortir les chiffres, on va demander aux gens de vous donner ça, puis on va vous revenir avec le chiffre exact.
OK. Mais fâchez-vous pas, là, M. le premier ministre.
Je suis pas fort.
OK. Parce que c'est une question qui se pose.
Mais je vois des rapprochements entre le Parti libéral et Québec solidaire.
Oh là là.
De plus en plus.
Si vous en voyez de tels, ça explique bien les affaires. La question, justement, vous avez été posée, puis vous ne le savez toujours pas aujourd'hui. Là. On va vous le donner, je suis certain qu'on va vous donner la bonne information, mais vous, comme premier ministre...
Ça continue comme ça, il y a du temps qui se perd. L'équipe de François Legault se met à chercher le prix moyen d'un 4,5 à Montréal pour essayer de glisser l'information à l'oreille du premier ministre. Marc Tanguay continue, il y avait la réponse depuis le début parce qu'il savait la question qu'il allait poser, mais pour... l'électorat, pour l'électeur, il n'y a rien qui en découle. Il y a le contenu, le contenant. En ce moment, on est vraiment dans le contenant. Comment est-ce qu'on va faire paraître l'autre? Mais on n'a pas de solution. On n'a pas de vrai débat sur l'enjeu. Il n'y a absolument rien d'autre qu'on a voulu peinturer dans le coin le premier ministre. Et effectivement, on a démontré qu'il n'était pas au courant de certaines informations super importantes quand t'es premier ministre. Mais malgré tout, Jérémy, comment est-ce qu'à brûle pour point, t'analyses cette situation-là, toi?
Oh là là, hein? ça vole pas haut, d'un côté comme de l'autre.
Oui.
Parce que on comprend très bien ici que les libéraux essaient de parler de la crise du logement, essaient de faire avoir l'air le premier ministre déconnecté. En même temps, le premier ministre, il avait déjà reçu la question. Moi, quand je préparais les élus avec qui je travaillais pour des exercices comme ça, il y avait des fiches très claires avec le prix de la livre de steak haché, le prix de la livre de beurre, le prix de la pinte de lait. Le prix du loyer moyen.
C'était comme un apprentissage, là, il étudiait pour avoir la réponse à cette question-là, si jamais ça venait?
Ben, c'est parce que tu veux pas avoir la réponse à cette question-là puis avoir l'air déconnecté. Mm. T'sais, nos élus font peut-être plus l'épicerie au quotidien, puis la responsabilité est peut-être à quelqu'un d'autre. Mais en même temps, les gens qu'on représente vivent cette situation-là. De l'autre côté, François Legault embarque dans le jeu de Marc Tanguay. Il dit, bon, mais là, vous êtes comme Québec solidaire, vous essayez de scorer des points politiques. Ben, si la question a été déjà demandée, l'équipe de François Legault aurait dû préparer cette réponse-là. Pour moi, ça aurait pu permettre de passer à autre chose. François Legault aurait pu répondre, le prix moyen du loyer au Québec, là, c'est 1980 $. Puis, à place de poser des petites questions politiques, avait fait la petite politique, M. Tanguay, vous devriez me poser des questions sur comment on fait pour bâtir plus de logements, comment on fait pour baisser le prix moyen des unités, qu'est-ce qu'on fait pour s'attaquer à la location à court terme, par exemple. M. Legault aurait pu élever le débat. Il aurait pu s'inspirer, tu sais quoi, Pascal, de Gabriel Attal, qui est venu il y a pas si longtemps que ça au Québec et au Canada, qui lui a réussi, il était éloquent à entendre parler, il faisait pas comme nos politiciens, il tombait pas dans le panneau la petite politique facile et il parlait de sujets extrêmement délicats. Mmh. Il a parlé d'éducation, il a parlé de laïcité, mais il l'a fait avec une éloquence qu'on n'a pas chez nous et que
mais on a
malheureusement
perdu.
L'extrait
a perdu cette éloquence-là, mais est-ce qu'on n'est pas un peu responsable aussi individuellement? Parce que ce qui ressort, puis là, en termes de journalisme aussi, par au clic, mais derrière le clic, il y a un citoyen, il y a un électeur, de donner de l'attention à ce genre de politique-là au lieu de peut-être mettre en lumière les sujets qui sont un peu plus plates, mais qui valent la peine d'être entendus. Puis peut-être que les politiciens, tu sais, moi, j'imagine un François Legault, puis je défends personne dans ça, puis je l'ai bien dit en onde pour moi. Dans les deux clans, c'était de la petite politique parce qu'il n'y a rien pour l'électeur à comprendre et à savoir est-ce qu'on s'en va avec l'enjeu de la crise des logements. Mais il n'y a pas... Tu sais, François Legault devait se dire, oh, si je dis mauvais chiffre, là, ça va se ramasser partout. J'aurais dû le savoir, mais là, il faut que je tourne autour du pot parce que je ne peux pas sortir un chiffre. Finalement, on va me peinturer dans le coin. Marc Tanguay n'attend que ça. Et là, on passe du temps là-dedans. Je trouve ça déplorable.
Ben oui, puis après ça, on a aussi eu Paul-Saint-Pierre Plamondon puis sa soupe au lait, là.
Oui.
C'est ça qu'on a sorti de l'étude des crédits puis qu'on va se souvenir de ça alors que... Mais c'est aussi ça, des fois, qu'on demande. Qu'est-ce qui génère des clics sur Internet? Ben c'est la François Legault, la prise de bec entre François Legault puis Marc Tanguay. C'est la soupe au lait de Paul-Saint-Pierre Plamondon. On a perdu, puis tu fais bien de le dire, parce que les politiciens qui font de la politique autrement, c'est un peu des espèces en péril. On avait Véronique Yvon, Françoise David à une certaine époque, même des Pierre Arcan, qui faisaient de la politique en étant reconnus pour être non-partisans, pour amener des enjeux qui transcendaient les enjeux des différents partis, qui étaient capables de représenter les intérêts des citoyens en travaillant ensemble. On sent qu'on l'a de moins en moins, mais je pense qu'aussi, on a une partie de responsabilité là-dedans parce que le discours en politique, il se polarise. Le discours en politique, on est de plus en plus pris dans nos bulles, dans nos algorithmes, dans les gens qui pensent comme nous et on tombe facilement dans une critique très acerbe et très, des fois, méchante envers nos élus alors que ces gens-là travaillent extrêmement fort. Fait qu'il y a comme un espèce de servicieux qui s'installe en ce moment.
Mais il y a de la médiocrité malgré tout, Jérémy, dans,
oui,
dans
ce qui est
fait en
là,
politique.
Je ne dis pas que c'est juste de la faute des analystes comme toi puis moi puis des gens qui écoutent. Là, ça vole pas haut. Mais en même temps, on sait très bien qu'on va faire du bruit. Marc Tanguay le sait. Là. Mm-hmm. Si François Legault il dit un chiffre trop bas, François Legault déconnecté de la réalité des locataires.
Ouais, là, il voulait un chiffre, en fait, pour pouvoir plonger là-dedans. Puis moi, le plus drôle, au départ, c'est quand il dit, « Bon, M. Legault, c'est certain, vous le savez, le prix, là. T'sais, je vais vous poser une question, mais je sais, vous connaissez la réponse. » Voyons, je suis la seule à savoir c'est quoi cette stratégie-là qui me frappe au visage, comme quoi il sait très bien où il s'en va puis qu'il va essayer de mettre dans le coin François Legault. Mais on a tous une responsabilité, et c'est ça que tu es en train de nous dire, là.
Ben, si nous, on demande ça, on va avoir ça. Puis c'est sûr et certain que si les politiciens le savent aussi que la façon de sortir dans les médias, d'avoir de l'attention médiatique, c'est de créer la controverse. Mais on va créer ça. Et si l'attention... C'est parce que c'est pas vrai qu'on parle toujours des bonnes nouvelles puis des affaires qui vont bien. On parle de quoi? On parle de ce qui va mal, de ce qui est controversé. On le voit aussi sur la scène fédérale avec, là, on parle de Marc Tanguay puis François Legault, mais on pourrait aussi très bien parler de Pierre Poilievre puis Justin Trudeau. Quand, en politique, il y a un adage qui dit « Définis ton adversaire avant que ton adversaire te définisse. »
Qu'est-ce que tu veux dire?
Alors, c'est de dire, par exemple, Pierre Poilievre n'a pas perdu de temps à dépeindre Justin Trudeau comme un grand dépensier. On n'a pas les moyens de se payer Justin Trudeau. Il a sorti son Justinflation en disant que l'inflation, c'était de la faute de Justin.
Mettre des étiquettes toi-même sur ton adversaire et les faire briller aux yeux de l'électorat avant que ton adversaire le fasse sur toi.
Exactement. Et avant que ton adversaire ait le temps de se définir lui-même. Donc, c'est des stratégies politiques qui résultent dans des attaques personnelles. Des fois, les libéraux essaient de faire la même chose, mais ils vont peut-être un peu trop loin, où les Canadiens sont peut-être pas prêts à recevoir les parallèles que font les libéraux avec Pierre Poilievre et Donald Trump, par exemple, avec Pierre Poilievre et des leaders de l'extrême droite américaine. Donc, c'est des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, mais il faut que tu sois le premier à le faire, parce que sinon, tu te dis, ton adversaire va vouloir faire ça. J'appelle ça le concept de Disney, là. C'est très clair, c'est faut déterminer une menace, un méchant, une solution, puis un gentil. Puis nous, ben, on veut être le gentil dans l'histoire. Pierre Poilievre le fait très bien. La menace, c'est quoi? La menace, c'est Justin Trudeau parce qu'il coûte trop cher. Le méchant, c'est les libéraux. La solution, c'est la solution conservatrice, couper des taxes, bâtir des logements. Puis le gentil dans l'histoire, ben, c'est Pierre Poilievre.
Mais dis-moi, Jérémy, dans tout ça, Jérémy, pourquoi est-ce qu'ils ne s'occupent pas de leurs oignons? Pourquoi est-ce qu'ils ne se concentrent pas sur eux-mêmes? Il me semble que moi, un politicien qui arrive et qui dit bah, ça, parfait, fla-fla, moi, voici mon plan, voici ma joute politique, je vous parle à vous, électorat, et non aux autres partis, puisque les autres partis font, tant mieux pour eux, moi, voici ma proposition. Pourquoi est-ce qu'on a perdu ça?
Bien, on a perdu ça. Paul Saint-Pierre Plamondon se démarque ces temps-ci. Beaucoup, il faisait ça. Là, il s'est embarqué dans son méchant, ça reste les fédéralistes, le fédéralisme, le Canada. Il y a quand même un méchant dans son histoire. Son histoire est un peu différente.
Oui, ça a créé le référendum là, récemment. On a pris un peu le bord pour l'avance qu'il avait prise.
On l'a perdu. Ça a toujours été le cas en politique. C'est juste que là, avec les médias sociaux, avec la vitesse à laquelle circule l'information, on le voit plus. Et on le voit de plus en plus polarisé. Et on n'est pas une bébête à part au Québec, là. On le voit sur la scène fédérale. On le voit énormément aux États-Unis. Il va falloir, à un moment donné, qu'on baisse le ton tout le monde ensemble, parce que sinon, ça va dégénérer.
C'est rendu plus payant se rabaisser. C'est ça, on a évalué, là, en politique, c'est rendu plus payant auprès des gens qui nous écoutent, auprès des gens qui vont aller voter dans l'urne, de se rabaisser les uns les autres que de faire son petit bout de chemin?
Bien, faire son bout de chemin, ça peut être payant. Est-ce que ça te livre un gouvernement? Pas tout le temps. Ça l'a été le cas en 2015 pour Justin Trudeau. Souvenez-vous, là, il avait dit, bon, les voies ensoleillées, faire de la politique autrement, on n'attaque pas nécessairement. Mais il y a toujours un adversaire, il y a toujours un ennemi à abattre, parce que la réalité dans notre système électoral, c'est qu'on a besoin d'à peu près 30-33% des votes pour gagner. Et ça veut dire que, bien consciemment, tu as 70% de la population qui ne t'appuiera pas, puis ça ne te dérange pas vraiment. Mais il faut que tes 30% de votes, tu les prennes, tu leur parles, tu les amènes voter. Et ça, ben, ça crée quoi? Ça crée des clivages, ça crée des climats où les politiciens rabaissent l'autre côté, où ce que nous, on a la solution absolue. C'est très rare que... Mais c'était moins le cas à l'époque, parce qu'on est beaucoup un pays qui a été très au centre, centre-droit, centre-gauche. On était moins dans les controverses. Souvent, les Québécois n'aiment pas la chicane. Mais le climat politique, dans la façon dont il évolue, selon moi, pas dans la bonne direction. Et on a de moins en moins de place à la nuance, par exemple. Je vais mettre une partie de ce blâme-là sur des analystes comme nous. Mm-hmm. On a on n'a plus beaucoup de temps, tu le sais, on n'a pas beaucoup de temps à la radio, on n'a pas beaucoup de temps à la télé, pour parler des fois de sujets très, très, très compliqués. L'attention, on a un déficit d'attention collectif, on a des téléphones au bout de notre main, on a toujours quelque chose qui se passe. Ben, des fois, ça fait que faut expliquer un enjeu aussi compliqué à expliquer que l'impôt en 5 secondes.
Ouais.
Ou on faut expliquer un enjeu aussi important que la crise du logement en une solution très simple pour régler la crise du logement. Alors qu'on sait très bien qu'on réglera pas la crise du logement avec une seule mesure. Donc, il y a comme cette réalité-là aujourd'hui où tout va plus vite, où on a moins de temps pour tout, mais on fait, la résultat de ça, c'est qu'on perd de la nuance dans le discours, puis bon, fatalement aussi, on perd des fois des acteurs qui avaient une éloquence qui maintenant, on descend dans les égouts pour dépeindre notre adversaire. Mmh. C'est le choix des politiciens aussi. Mais, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas.
Mais c'est un risque politique. Si je t'écoute, c'est qu'il y a un risque politique en arrière de ça. En même temps, ça a fonctionné effectivement quand Paul Saint-Pierre Plamondon, il s'est soucié de ses propres patates pilées. Je veux dire, dans les débats, on le voyait, il s'élevait. Là. Les gens l'ont vu comme quelqu'un qui était beaucoup plus discipliné, respectueux et autre. Ça peut toujours changer ou encore d'autres politiciens peuvent prendre cette tangente-là dans les débats qu'on aura au provincial ou au fédéral. Mais ça me semble être finalement un risque politique, là. Si t'as pas de charisme,
Quelque chose qui aiderait aussi, Pascal, c'est d'avoir plus de femmes en politique. Parce que moi, j'ai souvent travaillé
avec des femmes. C'est pas un discours facile, ça. Ah, oh, j'aime ça, là, où tu m'amènes. On va le prendre, le sujet.
C'est pas un discours facile parce que c'est reconnu, c'est vrai. Les femmes ont des styles de leadership différents. Les hommes, là, l'ego embarque rapidement. On veut être plus fort que l'adversaire. On veut montrer une position de force. Alors que c'est des Véronique Yvon, des Françoise David, c'est des gens qui amenaient des solutions réfléchies, qui ne se souciaient pas de la force. Il y avait quelque chose de plus qui pensait au bien commun dans la façon dont ils faisaient de la politique. Des fois, ce qui est un peu laissé de côté, puis là, je ne mets pas tous les hommes dans le même panier, là, puis je ne mets pas toutes les femmes dans le même panier non plus, là, mais il faut faire de la place à faire de la politique autrement aussi. Je te donne un exemple. Moi, quelque chose qui me tape souvent sur les nerfs, c'est les analyses sportives qu'on fait de la politique. « Ah, il a donné un bon jab, il lui a passé le KO, il est rembarqué dans le ring, il a laissé ses gants de boxe à la maison. » On décrit la politique comme un combat. On ne peut pas s'attendre à avoir autre chose qu'un combat.
Mais on veut quand même quelqu'un de combatif, tu sais. Puis là, je comprends pour les...
Pourquoi?
Mais on ne veut pas que ça soit nécessairement que mou, parce que ça veut dire que quand il y aura des enjeux importants, il va falloir mettre nos culottes, comme dit la vieille expression, va falloir être capable d'y mettre, non? Comment est-ce qu'on peut ne pas tomber aussi dans la mollassitude si jamais on est un petit peu plus conscient de...
Et là, c'est la définition qu'on fait du leadership. Mais est-ce que le leadership, c'est nécessairement toujours de la force brute? Moi, je remets ça en question. Parce que des fois, du leadership, ça peut être d'avoir une vraie sensibilité puis une vraie douceur par rapport à comment on aborde une situation. La crise du logement, ça ne peut pas juste être de la force. Ça ne peut pas juste être réglé en serrant la vis sur les méchants développeurs puis en aidant juste les locataires. Ça ne peut pas juste être en aidant les jeunes à acheter. Tu sais, il y a des situations où ce que je me dis... Tu peux pas juste tout le temps demander qu'on soit fort et combatif. Et pour ça, mais ça prend différents styles de personnes qui font de la politique et on doit l'accepter.
On doit le faire.
On doit accepter qu'il y a des leaders forts, qu'il y a des leaders sensibles, qu'il y a différents styles de leadership. On peut pas juste demander une chose. Toute cette conversation-là, je la trouve super intéressante parce que elle nous amène ailleurs. On a eu un style de politicien par le passé qui est très, si on regarde, là, il y a OK, oui, Justin Trudeau n'est pas pareil que Stephen Harper, puis il n'est pas pareil que Ben Mulroney, mais c'est tout.
J'allais te dire, honnêtement, Jérémy, le temps passe ironiquement. On vient de parler du temps puis dont on a pour justement jaser ce genre de sujet-là. Mais Justin Trudeau, étant plus mollasse dans sa façon de faire de la politique, a été énormément critiqué là-dessus. Tu sais, on le voit avec les enjeux internationaux. Tu le sais à quel point pour moi c'est important la politique internationale puis tout ce qui est en géopolitique et socialement. Mais on a été mou puis il y a eu des ravages qui ont été faits. Est-ce que c'est possible d'être moins combatif mais d'être rigide?
Et Stephen Harper avait une forme de leadership, gants de fer, pas de gants de velours, pantoute. Puis il a été fortement
absolument
critiqué.
Absolument,
en 2015, on disait le Canada a une image terrible à l'international.
Oui. Il est où le juste milieu? Il en faut un.
Il en faut un. Puis moi, je pense que le juste milieu va venir avec... Il faut accepter des fois qu'il y a des changements et il ne faut pas toujours demander le style de politique qu'on a demandé depuis 1960. Ça va être appelé à changer dans les années. Il faut accepter qu'il y a des gens qui vont faire de la politique autrement. Et au lieu de dire on n'a jamais fait ça comme ça, c'est peut-être d'accepter un nouveau style de leadership dans ce qu'on va voir, ce qui s'en vient, puis pas, de ne pas juger puis de ne pas critiquer trop rapidement.
En tant que lecteur, puis en tant qu'observateur de la scène politique, je comprends aussi, tu sais, c'est notre rôle. Hey, Jérémy, Guy, c'était vraiment intéressant d'avoir cette conversation-là avec toi. J'ai comme un petit fantasme en ce moment, puis là, restons dans ce qu'il y a à la politique, là. Mais j'aimerais ça voir en même temps, je n'aimerais pas, parce qu'on serait dans le spectacle, on serait dans le genre d'immersion puis de reportage journalistique, mais quelqu'un qui se présente et qui teste toutes sortes de leadership dans ses prises de parole, puis voir comment est-ce que ça va être reçu par le public et son propre parti. Mais tu sais, quelqu'un qui se fait vraiment élire, puis qui finalement, c'est juste pour une étude sociologique.
Ben, on le voit un peu avec Pierre Poilievre avant. Je ne sais pas si... on a prêté attention.
Il veut quand même être
là,
vraiment premier ministre.
Il a changé de style, il a changé de look. Des fois, il va vraiment fort, des fois, il ne va pas si fort. Les policiers font des tests pour arriver... Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est exactement à la bonne place pour aller chercher le maximum d'électeurs? Puis là, quand je dis le maximum, on s'entend, on gagne un gouvernement entre 30 et 40 des votes. Fait que comment je fais pour aller là et chercher? T'sais, Pierre Poilievre, on veut pas qu'il ait l'air trop extrême parce qu'on va aller chercher le vote des femmes, par exemple. Alors, on va venir mettre sa femme à côté de lui puis on va lui faire mettre un T-shirt en dessous de son veston. On le voit en ce moment. Cet ajustement-là, même de l'image du politicien.
Mais il le fait pour être élu. Tu sais, moi, j'aimerais ça quelqu'un qui... Ouais. C'est presque un comédien.
Juste pour le fun.
C'est presque un comédien, dans ma tête. Merci beaucoup.
En même temps, on a peut-être eu Justin Trudeau en 2015.
Oui, puis il y en a aussi qui s'en permettent d'une autre manière. Il y en a qui chantent, il y en a qui dansent, il y en a qui font des TikTok, il y en a qui...
Quand je dis chante, danse, là, c'est... J'ai vécu une situation avec Dominique Anglade pendant la dernière campagne électorale. Puis c'est la veille du débat, alors qu'il y en a qui allaient courir, bien, Mme Anglade, elle a dansé. Et ça a été vertement critiqué.
Oui.
Bien, Mme Anglade, elle court pas dans la vie. Elle fait pas de boxe, elle court pas, elle danse puis elle chante. Bien, c'est ça que je dis quand tu dis des fois, faut accepter qu'il y ait des styles différents dans ce qu'on fait. Puis on a toute notre façon à nous d'évacuer notre stress puis d'être qui on est. Mm. Moi, je cours dans la vie puis je fais du vélo.
Mais on a mis ça sur les plateformes des réseaux sociaux. Peut-être l'erreur est là. En tout cas, moi, j'ai des critiques par rapport à ça. Puis on aura en masse le temps d'en reparler, mais à un moment donné, je l'ai dit, moi, Sonia Lebel, j'adore cette femme que je trouve forte, qui m'a impressionnée à la commission Charbonneau. Peu importe le parti pour lequel elle se présente, j'aime un peu où est-ce qu'elle se dirige. Puis elle en a eu plein les bras dernièrement, puis j'ai pas toujours été en accord avec elle. Je ne serai pas toujours en accord avec elle. Mais quand elle a ouvert son compte Instagram, j'ai trouvé ça difficile. Là, j'étais non, on ne doit pas mélanger des pommes avec des poires, là, ça, ce genre de politique réseaux sociaux, je trouve ça difficile. Hey, mais Jérémy, là, on va défoncer l'émission, mais on a eu beaucoup de plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin.
Merci à toi.
Directeur chez TAC, ancien stratège en politique. Jérémy Guillaume, si vous voulez reprendre cette chronique-là, bien, elle sera disponible au blvd.fm. Puis là, les mauvaises langues, là, par texto, au 88. Mais on... Ça, c'est drôle. 418-971-1021. Écoute, ça m'arrive jamais d'oublier le numéro de téléphone. Voyez-vous à quel point j'étais dans ces mauvaises langues qui disent « politique et fantasme ». Il y en a qui aiment ça pour vrai, se faire fourrer. Je trouve que le vocabulaire est à revoir, OK? Et pour ce faire, on va prendre une courte pause. Merci d'être dans leur CV.
Le 30 avril prochain,